Alors, je suis en compagnie de Thierry Paco, philosophe. Comment vous présente, parce que les hommes comme ça qui ont plusieurs cartes, comment qu'est-ce que vous préférez?
Ah non, le philosophe c'est bien, c'est une discipline indisciplinée qui ambitionne de traiter de tout, donc ça me va bien. Voilà.
On dit philosophe de l'urbain.
Non, parce que bon, il se trouve qu'à un moment donné, c'est un enjeu. Enfin, je pensais que c'était un enjeu d'essayer de comprendre pourquoi les philosophes du XXe siècle, Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Derrida, Lévinas, etc., ne s'étaient pas intéressés au milieu urbain et à l'urbanisation planétaire qui était massive. Donc, je n'ai rien trouvé chez eux sur le centre commercial, sur l'autoroute urbaine, sur la gated community, sur par exemple le gratte-ciel. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer de réfléchir à ces objets architecturaux et urbanistiques à partir de la philosophie. Voilà, donc c'est une sorte de philosophie appliquée. Mais alors, ça n'a pas pris du tout. Donc, je suis le seul philosophe de l'urbain et puis qui a créé un cours, évidemment, un enseignement à Créteil là-dessus, bon, bien sûr. Et arrêtons l'enseignement pour prendre ma retraite, anticipée il y a quelques années, je n'ai pas été remplacé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, personne n'a trouvé que la philosophie de l'urbain, c'était intéressant.
Ça n'intéresse personne.
Ça n'intéresse absolument personne.
Bah, écoutez, nous, ça nous intéresse. D'abord, je voulais parler avec vous de l'espace public, parce que c'est un mot que vous n'aimez pas, cet espace public.
En fait, il y a un malentendu, quoi. Je veux dire, c'est très très intéressant. C'est que le mot espace public au pluriel, qui désigne les rues, les places, les parvis, les cheminements, comme on est là en ce moment sur les quais de la Seine, ou les sentiers de grande randonnée aussi, ou les plages, bon, tout ce qui est réservé à des publics, je les mets au pluriel, à des publics, donc ce qu'on appelait avant la voirie, depuis 1985-86, donc c'est un terme récent, on parle des espaces publics. Et les élus, les architectes, les urbanistes, sans arrêt, ouais. C'est la qualité première d'un projet urbain, c'est d'être généreux, l'expression est toujours la même, d'être généreux en espace public. Mais en même temps, on ne nous dit pas que dans des tas d'autres endroits du monde, on les privatise, on les ferme, on les emmure.
En France aussi d'ailleurs, on privatise.
En France aussi, oui. Et on va du coup créer des ségrégations nouvelles. En fait, le terme apparaît en 1978 comme titre de l'ouvrage d'un philosophe allemand qui s'appelle Habermas, Jürgen Habermas, qui avait fait sa thèse sur Schelling en philosophie et qui ensuite a fait une seconde thèse de sciences politiques qu'il a consacrée à la publicité de l'opinion privée des bourgeois.
Rendu public.
Et qui va jouer évidemment dans une sorte de prise de conscience collective qui aboutira, je vais très très vite en histoire, à la Révolution française et au régicide.
Donc un espace éminemment important, on passe sous un pont, ça va résonner un petit peu. Espace éminemment important pour l'opinion quand même.
Mais le titre allemand n'est pas celui-là. Donc en français, l'espace public, c'est le lieu de la démocratie et qui est très très bien analysé par Habermas avec trois dispositifs, le salon, le café et le journal imprimé. Les trois naissent en même temps dans les mêmes pays à la fin du XVIIe siècle et vont évidemment connaître une apogée extraordinaire au XVIIIe siècle, avec parfois d'autres formes. Les salons vont être associés, doublés de clubs, par exemple pour l'Angleterre, et même aussi en France, il suffit de se souvenir de la Révolution française, le club des Cordeliers, etc. Bon. Donc des formes
ça
de
ça se transformera en association, ça, les clubs, après, ou c'est autre chose?
Alors, c'est autre chose. Ouais. C'est une autre histoire, la loi 1901 et le mouvement associatif. C'est plutôt lié au syndicalisme et au mouvement ouvrier. Mouvement ouvrier qui n'est pas pris en considération, ni les sans-culottes, par Habermas. Il ne s'occupe que des bourgeois. Donc les bourgeois, ils vont au café, qui est un lieu tout à fait nouveau, à la fin du... Le premier est créé pas loin d'ici, la rue, le Procope, du nom de son fondateur, rue de l'Ancienne Comédie. Et là, c'est assez luxueux. Il y a un très beau mobilier, il y a des grandes glaces. Les glaces sont très rares. Hein,
Là, on est quoi? On est 19e?
17e.
17e.
Ah oui, on est au moment de la galerie des glaces de Versailles. Et puis, on sert ce breuvage qui est très particulier, très exotique pour tout le monde. Le mot exotique lui-même date de Rabelais, c'est lui qui l'utilise pour la première fois. Et ce mocha s'appelle comme ça, ou arabica, parce qu'il vient, il est cultivé dans la péninsule arabique, et il quitte le port de Mocha pour arriver à Marseille, par exemple, ou là, pour la France, où là, il remonte dans l'ensemble de l'Europe. Donc les premiers cafés au sens de boutique où on vend du café et où on peut en consommer, c'est en Angleterre d'abord, et puis ensuite vers la fin du XVIIe siècle en France. Et puis c'est des lieux donc un peu chic, un peu... Du coup, on n'y rentre pas comme ça aussi facilement. C'est plutôt masculin, plutôt des bourgeois, effectivement, ce qu'on appelle aussi des robins, c'est-à-dire des aristocrates, mais de robe, et donc récents.
On vient se voir, il y a des sujets de discussion où c'est...
On peut lire la presse, je vais y revenir sur la presse, et puis on discute beaucoup. Et évidemment, ça fait un peu conspiration. Donc on est fliqué, parce qu'il y a déjà à l'époque des mouchards qui écoutent et qui ensuite font leur rapport. Mais ce n'est pas gênant parce que l'important, ce n'est pas ça, c'est que M. X, en sortant, va dire « j'ai rencontré Y ». Il considère que, par exemple, l'expédition militaire à tel endroit est absurde, coûteuse, sans intérêt. Et donc, du coup, ça lance un débat sur chaque citoyen, le mot n'existait pas encore, a quelque chose à dire sur la politique de son propre gouvernement.
Et donc, ça passe par les journaux. On trouve des journaux dans ces cafés. Alors, on trouve
des journaux, ils sont mis à disposition. Le premier journal, ce n'est pas le premier, en fait, il y en a eu plusieurs, mais qui n'étaient pas des quotidiens. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais donc on attribue évidemment à Théophraste Renaudot le lancement de la Gazette. La Gazette, tu vois, c'est un mot qui vient de l'italien Gazetta, qui était la pièce de monnaie à Florence, nécessaire pour acheter un exemplaire d'un journal italien. Donc on a gardé cette idée-là de Gazetta. Et deux auteurs étaient sous pseudonyme, sont très très connus, Richelieu et Louis XIII. Donc c'est un journal qui a le parrainage, j'allais dire, du pouvoir central. Donc sa marge de liberté est relativement... Alors très très vite, il y en aura d'autres qui vont se créer, où il y aura des opinions qui vont être défendues. Et donc du coup, la censure va apparaître progressivement, hein, avec donc un contrôle des imprimeurs, un contrôle des marchands de papier, puis un contrôle des journalistes. Le mot journaliste n'existait pas encore, hein, ça va arriver un peu plus tard. Et surtout au XVIIIe siècle, la Révolution française est le temps fort de la presse papier, puisqu'on dénombre à peu près 600 journaux nouveaux. Ah oui. Ouais, c'est considérable. Alors, des fois, ils durent quelques jours, enfin, avant que le mec soit décapité, mais ou guillotiné. Mais bon, il y a une floraison comme ça de journaux qui sont d'un format un peu comme tabloïd, un peu comme Libération d'aujourd'hui, et qui sont très facilement affichables.
Ah, d'accord.
Donc, on prend une page, souvent un 4 pages, et
on colle, quoi.
Et on le colle. Et ça fait recto verso, et on a une affiche. Et donc, du coup, tout le monde peut le lire, même si le journal n'est pas été acheté par les
lecteurs. Donc là, on fait publicité de l'information, des points de vue, de l'opinion.
Voilà, exactement. Et le salon, évidemment. Alors, c'est intéressant, ce sont des femmes qui ouvrent des salons, des femmes généralement de l'aristocratie, très très bien placées dans les relations familiales avec le roi, bien souvent. Mais ça les couvre un peu, d'une certaine façon. Elles sont excessivement cultivées. Et elles, c'est un peu différent. Elle mélange les philosophes, les musiciens, les savants, enfin, et puis...
Les salons un peu pop, quoi.
Voilà, donc et puis on vient régulièrement, on discute le coup, et voilà. Et donc c'est à la fois chic et c'est choisi. Donc ça va donner ce qu'on appellera plus tard les Lumières, et très méchamment du reste, Molière va se foutre dans leur tronche en parlant des précieuses ridicules ou des femmes savantes, mais sans elles, ces salons qui sont une porte... une ouverture incroyable à ce qui vient d'ailleurs, parce que c'est là où quelqu'un va dire « Ah, attendez, moi, je reviens d'un pays, la colonie américaine, qui ne s'appelait pas encore les États-Unis. Ah, il se passe des trucs vachement bien, ils emploient des Indiens, ils les tuent pas, ils les considèrent comme des êtres humains, comme les autres. » Donc, tout d'un coup, il y a des sujets qui, en France, fâchent, qui sont évoqués comme ça par cette population. Ce qu'il faut noter, c'est que les trois, le journal, le café et le salon, ne sont pas liés à une géographie. C'est pour ça que le mot « espace » me gêne un peu, parce que c'est plutôt des dispositifs, mais qui sont changeants, qui peuvent... Le journal circule. Alors évidemment, il y a l'espace de la page. Bon, on peut toujours dire ça.
Mais aujourd'hui, on parlerait d'espace public numérique.
On parlerait d'espace public numérique, mais
le mot « rapport espace » à la démocratie.
En français, est un terme assez récent, qui vient du vocabulaire des typographes et qu'on utilise encore aujourd'hui quand on vous demande un papier de 2000 espaces compris, 2000 signes espaces compris, c'est ça l'espace. C'est un intervalle. Je préfère de loin parler de lieu. Oui. et de lieux urbains, s'ils sont urbains, ou de lieux ségrégés. Ou...
On parlait de place tout à l'heure hors micro, c'est ce qui fait place, c'est aussi ce qui fait espace, ce qui fait lieu de rencontre.
Voilà, exactement ça, la place, c'est le meilleur exemple, c'est le lieu de la confrontation, c'est le lieu de la rencontre, et aussi de l'évitement. On peut tout à fait, dans une place où il y a énormément de monde, éviter de rencontrer ceux qu'on ne veut pas rencontrer.
Heureusement d'ailleurs.
Croiser, heureusement. Exactement. Mais... Donc, le mot espace public, j'en fais mon deuil, je suis obligé de parler d'espace public au pluriel parce que tout le monde en parle, mais je préfère revenir à des notions, quand je peux, beaucoup plus précises, parce qu'une rue n'est pas une avenue n'est pas un boulevard, enfin, etc., etc. Donc,
ce serait quoi alors votre...
J'aime bien la notion de réseau viaire ou de voirie, parce que ça s'inscrit dans la longue histoire des villes, qui est en fait très courte, puisqu'on considère que l'histoire des villes, c'est 8000 ans, hein, donc c'est pas tant que ça, mais il y a tout de suite eu des rues. Il n'y a pas tout de suite eu des places. Nous connaissons énormément de villes au monde, historiquement du moins, qui n'ont pas de place. La place est une invention vraisemblablement occidentale, italienne d'abord, et qui va ensuite se répandre un peu partout par mimétisme et par conception de la forme de la ville. Si je prends les places, la place royale, par exemple, qui sera la première place qui inspirée d'Italie, mais qui va marquer les esprits, qui s'appelle place des Vosges aujourd'hui, eh bien, elle va être incroyablement exportée partout dans l'Europe de l'époque.
C'est-à-dire quand même un côté un peu fermé, avec des façades. On n'est pas complètement ouvert. Hein, là.
Oui, c'est une place privée, c'est-à-dire que c'est des promoteurs, alors on ne les appelait pas comme ça, c'est des propriétaires qui vont bâtir, qui vont lotir, et qui vont donc entretenir la place qui sera mise à la disposition des passants. Mais en fait, elle est comme le square anglais au XVIIIe siècle, c'est un endroit privé. C'est des structures qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui. Hein.
Mais pour revenir à l'espace public, vous dites que vous préférez la voirie, les rues, les places, donc le mouvement quand même, le mouvement là où on peut se déplacer, aller vers et tout ça. Mais qu'en est-il du mot public, c'est-à-dire de la rencontre avec l'autre, ou en tout cas, pour moi, ça résonne plutôt sur l'aspect fondamental de la démocratie, se rencontrer, échanger les opinions, se battre, défendre des idées.
Alors effectivement, il y a au moins deux sens pour le mot public dans espace public. L'un relève de la propriété privée du lieu. Est-ce que c'est public ou est-ce que c'est privé? Ça, c'est le vocabulaire à la française qui est un peu bête parce que c'est un dualisme qui ne fonctionne pas dans les autres pays du monde. Souvent, même quand j'ai fait mon petit livre sur l'espace public, j'ai appris que dans des tas de langues, comme le japonais, le chinois, l'arabe, etc., le mot privé, dans le sens opposé à public, n'existe pas du tout comme chez nous. Donc il faut faire très très attention à ça. Il y a des propriétés collectives, il y a des propriétés communautaires, il y a des propriétés individuelles, il y a des propriétés qui appartiennent à la municipalité, etc. Bon, donc ce n'est pas simplement public ou privé, ce n'est pas cet alterne. Ce choix-là n'existe pas. Alors ça, c'est la première mention du mot public. Et l'autre, vous avez raison, c'est les gens qui constituent des publics. Le mot public apparaît pour la première fois, dit-on, sous la plume de Colbert, lorsqu'il invite les peintres qui résident à l'Académie de peinture de montrer leur œuvre le premier dimanche de juillet au public. C'est là où on pointe le mot public. D'accord. Mais ça ne prend pas du tout.
Le public en tant que spectateur, donc, du coup,
oui,
une audience.
Voilà. Et ça ne prend pas, et il faut attendre Diderot. C'est Diderot qui lance le mot public au sens d'un public de théâtre, un public d'un spectacle. Et d'un auteur qui a son public. Donc le mot public moi, m'intéresse beaucoup dans ce sens-là, où je pense que les espaces publics que j'essaie de repérer, quel que soit le statut juridique, sont des espaces ouverts à des publics. Des publics qui viennent des consommateurs, par exemple, ou les gens qui viennent lécher les vitrines d'un centre commercial, ce que je fuis personnellement, mais bon, peu importe. Là, ça peut être un espace privé.
Mais les centres commerciaux qui peuvent faire place aujourd'hui dans certains...
Et qui peuvent fonctionner comme un espace public agréable, enfin sûr, lieu de rencontre, où on se donne rendez-vous, où les ados vont draguer, où les chômeurs passent du temps et aussi draguent les chômeurs.
Multiples usages, quoi.
Voilà, donc ça existe et c'est cette grande qualité. Ce n'est pas un non-lieu, comme on l'a parfois dit, c'est vraiment un lieu urbain, qui peut avoir évidemment un statut très particulier parce qu'ils ferment de telle heure à telle heure, enfin, ils sont gardés par des vigiles, il y a de la vidéosurveillance, bon, etc. etc.
Mais si on revient à la confrontation des idées, parce que comme vous disiez tout à l'heure, sur les places, c'est toujours facile de s'esquiver, de ne pas rencontrer l'autre ou de ne pas confronter ses idées.
Oui, oui, alors l'image...
Dans la rue, c'est ça que je voudrais redéfinir l'espace public aujourd'hui, c'est est-ce que l'espace public, c'est vraiment ce lieu de confrontation qu'on peut trouver dans le journal, dans le café, etc. Où il est aujourd'hui ?
C'est plutôt le lieu de la contestation, c'est-à-dire c'est plutôt le lieu du rassemblement. C'est plutôt un lieu de rassemblement qu'un lieu de confrontation, parce qu'on appelle par une flash mob ou par un appel quelconque à se réunir sous le coup d'une émotion.
Occuper, manifester.
Oui, d'occuper, manifester. Donc voilà, la nuit debout à la place de la République, les différentes indignées de tous les pays du monde pendant le printemps arabe, à la place Tahrir, etc., bon, ou à la place Taksim. Mais ce n'est pas un lieu de confrontation, sauf avec les forces de l'ordre, évidemment. Mais ce n'est pas un lieu de démocratie au sens où celui qui n'est pas d'accord avec moi, je ne vais pas à cet endroit-là, discuter le coup.
C'est arrivé quand même au moment des occupations des...
Oui, mais ça ne dure jamais très longtemps. Ça ne dure jamais très longtemps. C'est plutôt pour compter les forces et plutôt se recharger ses batteries quand on est un peu... quand on a l'impression qu'on se bagarre contre des moulins à vent. Tout d'un coup, ben, on n'est pas tout seul. On est quand même tout ça. Et donc ça nous rend regaillardis d'une certaine façon. Ça nous rend à nouveau hardis pour se battre. Du reste, c'est intéressant, la géographie politique et la couleur politique changent. Par exemple, à Paris, pendant très très longtemps, le lieu de la manifestation, pour les forces dites de gauche et d'extrême gauche, était la place de la Concorde. Là où le roi avait été... D'abord, c'était la Concorde, c'était un symbole fort, hein. La nation se réunit. Et puis d'autre part, c'est là où le roi avait été condamné à mort et exécuté. Or, en 1934, le 6 février, quand les forces d'extrême droite... les calmos du roi, etc., bon, ont marché vers de la Concorde vers l'Assemblée nationale pour la prendre et virer tous les députés qu'ils considéraient corrompus, pourris et inefficaces. Alors là, il y a eu un affrontement physique entre les partisans de la droite, disons, et de la gauche. Et ensuite, toutes les forces de gauche, syndicales ou de parti, ont changé de rive. Ont gardé la même rive, pardon, mais ont changé d'endroit. Ils sont allés de la République à la Nation en passant par la Bastille. Donc ces trois hauts lieux qui pour nous, nés après 34, ça a toujours été les lieux forts de la gauche. Moi, je pensais que ça avait toujours été comme ça. Non, il y a donc... Alors, c'est pareil, je me suis renseigné, c'est pareil, évidemment, pour les grandes places, par exemple, à Istanbul. Mais c'est aussi quand la ville change, quand la ville grossit démesurément, du coup, elle se décentre. On parle de polycentralité. Tout d'un coup, elle est tellement gigantesque qu'il y a d'autres centres qui apparaissent. Et celui qui était le plus ancien, par exemple, peut très bien péricliter.
Et alors, donc selon vous, l'espace public, appelons-le comme ça quand même, c'est-à-dire l'espace où on pourrait se séparer, se réunir dans la ville, ne permettrait pas d'élaborer une pensée, quoi.
Alors, ça dépend de la taille de la ville, parce que, effectivement, ce que vous venez de dire me fait penser immédiatement à l'agora, qui est au départ un terme masculin qui va devenir féminin, on parlera d'une agora, et qui vient du verbe grec agerein, qui signifie justement s'assembler. Donc ce n'est pas un lieu géographique et géométrique, une place délimitée à tel endroit par un château, aussi par une muraille. Non, c'est une petite borne à Athènes qui dit « je suis l'agora » et si on est 15, eh ben, l'agora est petite, si on est 1000, c'est plus grand.
On pourrait mettre une bombe de peinture et faire un point dans la ville et dire
« c'est ici ». C'est ici, et donc ce sera le lieu de rassemblement. Ouais. Et selon la taille des gens rassemblés, ben, elle sera, voilà, ça fait place. Et alors si on est, comme à Athènes, relativement peu peuplé, on peut s'entendre. S'entendre, j'entends même physiquement, c'est-à-dire que la voix porte, l'orateur sait parler pour que, si on est même 10, 12 000, celui qui est au bout entende, et peut répliquer, réagir, et on a évidemment à cette époque-là un autre rapport au temps. Donc le temps de la discussion, de la délibération est acquise. Moi je le vois très bien dans les conférences que je donne, ou les rencontres que j'ai, d'abord, tout le monde regarde son portable en permanence, et puis à un moment donné, ils sortent, ils reviennent, ils se barrent. Et donc, délibérer, discuter le coup, être entièrement disponible au débat d'idées pendant 10 heures, par exemple, ce qu'on peut tout à fait faire, c'est plus possible. Enfin,
bon, on ne s'écoute plus non plus, c'est-à-dire il y a un problème d'écoute.
Oui, il y a un problème, et de vocabulaire. Hein, et là aussi, il faut du temps, parce que pour s'écouter, il faut à la limite re-questionner l'orateur, dire « Attends, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire ?»« Ah non, pas tout à fait bon. !»
Forcément, il l'aura traduit d'une autre façon, peut-être il se trompera. J'ai lu aussi qu'à Thingvellir, là, en Islande, le premier parlement européen, qui est maintenant entre deux failles, la faille européenne et américaine, les réunions du Parlement duraient 15 jours, 15 jours, 3 semaines.
Oui, bah c'est ça, ouais, mais ça me semble très bien. C'est pour ça que du coup, quand on parle de démocratie participative, etc., tout ça, ce sont des bonnes idées, mais on évoque rarement la taille. Alors, prenons une ville de 20 millions d'habitants, par exemple, qui n'est plus une ville pour moi, bon, bah, c'est impensable.
Hein. On traverse un pont, on profite d'un haut-parleur. Qu'est-ce que c'est que cette musique?
Hein?
Qu'est-ce que c'est que cette musique?
C'est du rap carré.
Du rap quoi?
Du rap US.
Cousin Stiz. C'est quoi?
Cousin Stiz.
Cousin Stiz. Enchanté.
Enchanté.
Deux amoureux au bord d'un escalier. J'ai pas de feu, bah, désolé. Voilà, des rencontres toujours impromptues. Où on en était
Oui, la taille.
La taille, oui, hein, fondamentale. La taille et le temps.
Et du temps. Paul Virilio, qu'on a un peu trop vite oublié, qui est un penseur de la dromologie, donc de la connaissance de la vitesse, hein, dromos en grec, c'est la course, expliquait tout le temps qu'une vraie démocratie, c'est l'échange de paroles plutôt que d'écrit, et la parole étant parlante, il faut évidemment se donner du temps. Et on voit bien que quand on dit bon, on va faire une réunion, d'abord on commence par donner les horaires, on fait une réunion de 18h à 20h,
on donne la fin.
Voilà, donc du coup c'est fini, on empêche justement cette parole de parler. Et ça, c'est terrible. Par ailleurs, on n'a pas l'habitude à l'école, par exemple, enfin, du moins moi, mes souvenirs d'enfance, on n'a jamais été, on n'a jamais donné la parole pour m'expliquer. Jamais, pas une seule fois.
J'ai pas compris, on vous a jamais...
Non, jamais l'instituteur ou le prof disait, bon, alors maintenant, on va discuter de tel sujet. Alors, Pierre, tu commences, Marie,
t'en penses quoi ?
Voilà, jamais.
Discussion ouverte.
Jamais, jamais. Ça n'a jamais existé. Peut-être un était interrogé, parce que voilà, pour avoir une note, c'était tout. Quoi.
Donc la position de celui qui parle et celui qui écoute.
Voilà,
quoi.
C'est celui qui sait, oui. Le sachant, etc. Bon. Et aujourd'hui, c'est pareil. Moi, j'étais à tellement de réunions publiques sur la ville, par exemple. Et à chaque fois, j'étais sidéré donc, de voir que les élus, les architectes, les décideurs ne sont pas du tout attentifs ou exceptionnellement. Il y en a. Hein,
mais dans un autre temps.
Oui, et puis ils sont déjà dans une autre réunion qui va suivre, etc. Bon. Donc... c'est très difficile. La démocratie participative est excessivement difficile. Et peut-être que du coup, elle permettrait de reconfigurer autrement nos fameux espaces publics.
Mais moi, je m'interroge beaucoup dans l'articulation entre l'espace public physique de la ville, ou de ce qui ferait place d'un lieu dans la ville en tout cas, et l'espace public numérique, qui est que ce temps qu'on ne possède pas quand on est en face de l'autre, et où s'installent des situations très étranges, celui qui n'ose pas prendre la parole, etc. Il y a des tas de situations comme ça. Le sachant, le non-sachant, celui qui parle bien. Ce temps, on l'a derrière notre ordinateur, on l'a pour se forger une opinion, l'écrire, la mettre en forme, la poster, y compris au moyen de leaks, donc les de façon anonyme, et de pouvoir ouvrir une réflexion, en tout cas donner un chemin qui n'apparaîtrait pas dans ce genre de réunion d'assemblée.
Oui, ça fait aucun doute que, même si je suis très sceptique sur l'argument de la smart city, tout va devenir dématérialisé, et puis du coup ça stimulerait
j'espère pas tout.
Beaucoup d'idées, etc. C'est pas faux, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée à minuit, on est en dehors de la réunion, et on peut du coup l'envoyer à tout le réseau de gens qui ont participé à la réunion qui s'est terminée à 22h, pour prolonger... Alors ça, c'est tout à fait positif, et ça, c'est très très bien, bien sûr. Et puis, chacun peut répondre quand il veut, on peut différer les moments du débat.
Et rapporter aussi la parole virtuelle à ceux qui sont là, présents, et ceux qui ne sont pas là non plus.
Ça ne change pas, enfin, ça n'améliore pas pour autant l'importance du débat démocratique, quoi. ça y contribue, voilà. Mais à un moment donné, il faut, je pense, hein, il faut qu'il y ait là de la presse écrite, la radio, il faut des meetings, il faut des pas des tables rondes, surtout pas, mais des échanges, ce qu'on pourrait appeler des forums, si vous voulez, comme déjà on en voit dans des situations pour l'écologie ou pour l'aménagement urbain, on le voit dans des forums aussi bien en Hollande qu'en Allemagne. Hein.
Ou des réunions sur plusieurs jours.
Il y a des réunions sur plusieurs jours, oui, ça existe, hein, ça c'est plutôt pas mal.
On voulait faire un marathon au centre-ville.
Voilà, la police, la porte de la police en bord.
Faire un marathon, prendre un Paris-Bercy et puis 15 000 personnes.
La Seine, par exemple, c'est un espace public au sens qu'on a évoqué, sauf qu'on ne le sait pas, les gens l'ignorent, ils pensent que c'est interdit, enfin, que c'est réservé aux bateaux-mouches et aux péniches, évidemment, et à la police qu'on vient de voir passer. Non, on peut descendre avec son canoë ou son kayak, le mettre dans la Seine et naviguer, c'est tout à fait légal.
C'est légal.
Ah oui, absolument.
Quelle que soit l'embarcation.
Exactement, et sauf que on n'ose pas le faire, quoi. On ne le sait pas, on pense que c'est un domaine... Alors c'est marrant, on pense que c'est un domaine public, donc c'est réservé à l'autorité municipale, mais pas au préfet de police. Mais pas à chacun d'entre nous. Non, on a même le droit de se baigner, de nager, sauf que, évidemment, là, vaut mieux pas. L'eau est vraiment excessivement toxique.
Là, vous dites qu'on ne s'accapare pas les espaces publics. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qu'on ne sait pas que c'est à nous. Quoi. Donc, je lisais dans Rue de Berlin et d'ailleurs, un recueil de textes très, très journalistiques, très beau de Krakauer.
On fait demi-tour, on arrive au bout.
De Krakauer, qui est allemand, enfin, qui est un remarquable critique de cinéma, historien, etc. Et il a cette phrase que je cite de mémoire, « Pour qu'une ville soit vraiment agréable pour tous ses habitants et tous ses passants, il faut qu'elle possède des lieux d'improvisation. » Donc c'est une phrase intéressante parce que ça veut dire qu'il est contre le plein. Bien souvent, on a peur des friches, des dents creuses.
Des terrains vagues.
Voilà, des terrains vagues, des délaissés. Et en fait, c'est absolument indispensable qu'on ait ça dans une ville. Or, le système capitaliste, évidemment, joue sur la spéculation et donc sur le toujours plein, et même le plus haut possible avec les gratte-ciel. La municipalité de Paris, en ce moment même, réduit considérablement des tas d'espaces verts ou de lieux sportifs, par exemple. Ils en prélèvent un morceau pour y construire du logement. Avec l'argument, du reste, on manque de logement à Paris. Non, on ne manque pas de logement à Paris. On a une mauvaise répartition des logements, c'est un autre problème. Mais donc, du coup, moi, je crains beaucoup... Là, on le voit très bien, on a le Louvre en face de nous, il y a les Tuileries, c'est un jardin, mais c'est très bien. Et là, il y a la cour centrale, c'est une cour. Il faut garder ça, il ne faut pas construire, il ne faut pas remplir, parce qu'il nous faut des lieux d'improvisation. Voilà, nous sommes tous des jazzwomen et des jazzmen. Hein, et il nous faut marcher comme ça, en imaginant justement que là, tout d'un coup, on va transformer ça. Là c'est magnifique, vous voyez, il y a une toute petite bordure. Alors c'est moche comme tout, hein, c'est rikiki, bon, je le dis pour les auditeurs, il y a 8 mètres sur 1 mètre et demi de terre, avec une espèce de non-pelouse moche comme tout, et puis deux arbres ridicules. Mais c'est pas grave, parce que ça, je suis certain que pour un couple d'amoureux le soir qui s'adosse là et qui débouche une bouteille de vin face à la Seine, pour des enfants qui viennent considérer que ça, c'est un pays entier dans leur imaginaire, dont il est le roi, et ils vont partir à la conquête d'un autre pays qui serait le banc là-bas. Bon, ça, voilà, ça, c'est l'improvisation. Si on n'a pas des petites choses comme ça, ce que j'appelle des petits riens urbains, alors la ville devient exclusivement fonctionnelle. Or, l'être humain étant paradoxal, il n'est pas fonctionnel, il n'est pas rationnel.